on ne sait pas vraiment quand ça nous tombe dessus. Et parfois, ça ne vient pas du tout. L'envie d'avoir un enfant. Mais au fond, pourquoi faire un enfant ?
C'est une très bonne question. Pour commencer, il faut peut-être souligner que la possibilité en fait de choisir d'avoir des enfants ou non, c'est en fait assez récent. Ça veut dire depuis que nous avons la contraception d'un côté et aussi traitements d'infertilité d'autre côté. Donc c'est une question qui est assez récente.
Microsciences. Un podcast de la RTS.
On s'intéresse dans cet épisode à nos désirs de procréation. Un rêve pour certains, certaines d'entre nous, un cauchemar pour d'autres, une montagne russe d'hésitation parfois. C'est avec Antje Horch, professeur en psychologie à la faculté de biologie et de médecine à l'université de Lausanne, que nous allons nous interroger sur ces fondements biologiques, instinctifs et psychologiques de l'envie ou du désintérêt face à la parentalité. Et puis on s'interrogera sur la parentalité en tant que telle et aux traumatismes aussi liés à l'accouchement. Parce que parfois, ce n'est pas tout simple. Et là, ce que vous entendez, c'est le son du Tetris. Un jeu vidéo qui consiste à imbriquer des formes les unes dans les autres. On verra ce que cela vient faire dans tout ça. Antje Horch est également à l'origine de l'exposition « Bébé en tête » qui se tient actuellement au Musée de la Main à Lausanne. Tout commence donc par une envie d'enfant. Mais qu'est-ce qui la motive, cette envie ?
Donc d'un côté, je pense on a peut-être envie de transmettre quelque chose, donc on a envie de transmettre nos valeurs, de partager notre vie avec les enfants. Ça peut être aussi une motivation du couple, en fait, de partager leur expérience d'amour du couple, avoir une famille et partager des émotions et des expériences en famille. C'est aussi, bien sûr, en lien avec nos valeurs personnelles et aussi peut-être cette question, est-ce que ça fait pour moi partie de mon projet de vie, en fait, d'avoir des enfants ?
Et l'être humain est le seul animal à décider d'avoir des enfants ?
Je ne suis pas zoologiste, je ne suis pas experte de cette question, mais de ma connaissance, oui.
Ce qui veut dire aussi que certaines personnes ne souhaitent pas en avoir.
Il y a quand même environ 10% des personnes en Suisse qui choisissent de pas avoir des enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très individuel, très personnel et qui dépend aussi des circonstances individuelles comme est-ce qu'on a une stabilité, par exemple, financière? Est-ce qu'on se retrouve dans une relation stable du couple? Mais aussi, il y a des facteurs externes de société, donc il y a des attentes.
Ah, les attentes! C'est peut-être aussi ce qui fausse tout. Mais penchons-nous un instant sur notre instinct. Nous sommes des animaux. Cela semble au fond assez naturel d'avoir des envies d'enfant. Et puis, c'est biologique. Il y a un intervalle d'âge pendant lequel on peut avoir des enfants.
Quelque part, oui, on a une prédisposition aussi dans nos gènes de se reproduire. Après, c'est devenu un choix. Non, on a un vrai choix dans la plupart des cas. C'est plus en fait une question purement biologique.
Un choix. Pourtant, il y a cette fameuse horloge biologique avec laquelle on nous a rabattu les oreilles depuis que nous sommes en âge de procréer. Est-ce qu'elle existe vraiment ? La vie que nous menons, les incertitudes professionnelles, privées, l'état du monde, la pollution, le changement climatique, il la dérègle peut-être un peu, notre horloge biologique.
Il y a des facteurs, je pense, sociétals qui font qu'il y a quand même beaucoup de jeunes femmes, surtout peut-être qui choisissent d'avoir des enfants plus tard. Souvent, c'est à cause des études, c'est à cause peut-être dans l'apprentissage ou d'autres projets de vie qui prennent priorité peut-être en premier. Après, c'est vrai aussi que Il y a pas mal de pression sociale qui existe encore aujourd'hui, aussi en Suisse, sur les jeunes couples, où à un moment donné, l'entourage pose quand même des questions. Est-ce que vous voulez pas avoir des enfants? Est-ce que vous pensez pas que c'est un petit peu le moment maintenant? N'attendez pas trop, etc. Donc la pression sociale, elle est réelle, elle existe peut être assez difficile en fait pour certains couples. C'est vrai aussi pour certaines personnes, en fait, c'est jamais le bon moment d'avoir un enfant.
Nos choix sont donc aussi influencés par des constructions sociales. Mais peut-être que, malgré notre nature animale fondamentale, nous ne sommes pas toutes et tous faits pour être des parents.
Une personne n'est pas faite pour faire des enfants ou non. Je pense aujourd'hui, c'est clair qu'environ 10% des couples sont infertiles. Donc, ne peuvent pas, sans aide, avoir un enfant. Sans les progrès effectués en médecine, en fait, ça ne serait pas possible pour ces couples-là d'avoir d'un enfant. Je pense, si on parle plutôt du fait, est-ce qu'on est fait pour être parent, là, j'aurais dit, surtout, de devenir parent, ça s'apprend, en fait.
Donc, il faut faire beaucoup d'enfants, s'entraîner pour finalement devenir un bon parent avec les derniers.
Non, absolument pas. Un bon parent, qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est quelqu'un qui est disponible pour l'enfant, qui est attentif, qui agit en fait dans l'intérêt de l'enfant, tout en mettant aussi bien sûr des fois des limites qui sont importantes. Donc on parle surtout du lien affectif qui est vraiment clé. Donc on appelle ça l'attachement parent-enfant. Et il y a beaucoup de recherches qui montrent l'importance de cet attachement, de ce lien attachement avec l'enfant, qui est vraiment clé pour le bon développement de l'enfant. C'est quelque chose qui n'est pas toujours tout de suite donné. Donc des fois, ça prend un peu de temps.
Mais quand même, les modèles nous collent à la peau. Faut-il forcément être deux pour être parent?
Il ne faut pas être toujours deux, surtout pour être des bons parents. Bien sûr, il y a beaucoup de familles monoparentales en Suisse. Et je pense que la chose importante, c'est vraiment le soutien social qui peut venir si ce soutien ne vient pas dans partenaire immédiat ou dans coparent. C'est important que ce soutien peut venir de l'entourage, de la famille, des amis, aussi peut-être des collègues, des professionnels. Donc la chose importante, c'est d'avoir un soutien autour de soi, comme nouveaux parents.
Et franchement, parfois deux, ce n'est pas assez. Il faut tout un village pour élever un enfant, dit le proverbe africain. Cela dit, les stéréotypes de genre sont toujours et encore là.
En Suisse, en fait, la répartition des tâches à la maison pour les jeunes parents, elle est encore assez traditionnelle. Donc, dans les couples hétérosexuels, 70% des femmes gèrent plus. En fait, au niveau de la garde principale de l'enfant et les tâches ménagères, cette inégalité est aussi quelque part accentuée par le congé parental, comme il est construit encore en Suisse, hein, que les pères ont seulement 2 semaines de congé parental.
Oui, depuis 2021 seulement.
La recherche nous montre clairement l'importance des deux parents pour le développement de l'enfant.
Mais elle ne démontre pas que c'est la mère qui doit faire à manger ou les lessives.
Absolument pas, absolument pas. Et je trouve que, en fait, on ne donne pas l'opportunité aux deux parents de vraiment se repartir le congé parental d'une manière égale pendant les premiers mois de vie de leur enfant. Et c'est surtout pas en manque de science. On sait que c'est important d'avoir effectivement au maximum l'attention et la disponibilité des parents.
Pour autant, les deux parents sont-ils vraiment interchangeables?
Interchangeables, c'est compliqué quelque part, surtout au début, parce que si on parle de l'allaitement à 100%, c'est compliqué pour les pères de faire ça, même si bien sûr on peut trouver les moyens de tirer le lait, etc. Je ne sais pas si je parlerais d'être interchangeable, parce que c'est vrai que chaque parent amène sa personnalité, amène ses valeurs, amène sa façon d'interagir avec l'enfant. Et chaque parent aussi établit son lien d'attachement avec l'enfant, qui peut être différent de l'autre parent. Et c'est ça, c'est cette diversité en fait qui amène la richesse pour l'enfant.
Mais tout cela, c'est une fois que l'enfant est là. Et avant cela, il y a en général une grossesse. Un épanouissement pour certaines, une souffrance de nausées et de problèmes hormonaux pour d'autres.
La grossesse, la période périnatale en général, c'est une période assez vulnérable dans la vie. Donc on voit clairement une augmentation des problèmes de santé mentale comme la dépression, l'anxiété ou autres difficultés. C'est pas toujours une période juste de joie et d'épanouissement.
Et passé cette période périlleuse, il y a l'accouchement. Là encore, un phénomène naturel. Mais trop médicalisé? Pas assez?
D'un côté, on peut très bien voir une baisse du taux de mortalité de la mère et aussi de l'enfant. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement positif et réjouissant. D'un autre côté, en fait, en Suisse, environ 98% des femmes choisissent d'accoucher à l'hôpital. Donc on voit que apparemment c'est le lieu préféré pour accoucher. Donc c'est en lien avec, on imagine, de la perception de sécurité dans celle-là où on va se sentir plus en sécurité que peut-être dans d'autres lieux. D'un autre côté, je pense aussi à l'hôpital aujourd'hui, il y a beaucoup de flexibilité. Il y a aussi des approches, des interventions alternatives qui sont disponibles. Il y a tout qui est fait, en fait, pour établir un vrai partenariat avec le couple, avec la femme qui vient pour accoucher, pour leurs préférences, leur inquiétude, leur choix finalement. Et on va essayer au maximum de travailler avec le couple pour amener une expérience positive de cet accouchement.
Malgré cela, l'accouchement n'est pas toujours une bonne expérience.
Ça peut être traumatisant. En fait, c'est assez fréquent que c'est perçu comme étant traumatique. Donc, environ un tiers des femmes perçoivent leur accouchement comme étant traumatique. On a trouvé ici en Suisse, encore, c'était encore plus fréquent que ça. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent amener à cette perception. En général, on parle d'un accouchement traumatique si le couple ou si les parents ou le parent, un parent, a eu une perception que soit la vie de la mère a été menacée et ou la vie de l'enfant. Donc c'est vraiment ça qui est au cœur de cette idée d'accouchement traumatique. La chose à souligner, c'est que même si il y avait un accouchement, il y avait effectivement, objectivement, pas de risque pour la mère ou pour l'enfant. Quand même, les parents ou la mère, elle a pu avoir cette perception. Donc, c'est vraiment ça qui compte et qui est important à explorer, en fait, avec les parents suite à l'accouchement. Vraiment discuter avec eux leur vécu de l'accouchement pour mieux comprendre est-ce que ça a été une expérience traumatique ou pas.
Un tiers, c'est beaucoup. Et surtout, cela aura une influence aussi peut-être sur la façon d'aborder la parentalité et sur l'attachement si important entre parents et enfants. Alors, pour soigner ce traumatisme, Antje Horch et son équipe ont développé une solution étonnante. Avec le Tetris. Oui, oui, ce jeu vidéo puzzle qui consiste à ranger des blocs de couleurs.
Ça peut paraître un petit peu dingue de penser à un jeu vidéo. Ça se base vraiment sur les connaissances neuroscientifiques qui montrent qu'après un événement traumatique, il y a une phase qu'on appelle la phase de consolidation de mémoire, dans celle-là où notre cerveau va processer en fait l'événement qui s'est passé et qui va en fait consolider ses souvenirs. Et ce processus dure environ 6 heures.
Ah oui, 6 heures. Pour résumer, juste après un traumatisme, on a tendance à ressasser ce qui s'est passé, à le revivre, à revoir les images. C'est cette répétition qui va se cristalliser en un stress post-traumatique.
Et donc l'idée de base pour nous a été, et si on pourrait faire quelque chose pour déranger en fait ce processus de consolidation de mémoire traumatique. Donc on s'est basé en fait sur des études fondamentales qui ont montré qu'une tâche visio-spatiale complexe, comme le jeu vidéo Tetris comme exemple, en fait, peuvent interférer avec la consolidation de mémoire traumatique et surtout avec les aspects visuels. Et au cœur du stress post-traumatique sont les flashbacks. Donc, c'est vraiment des souvenirs traumatiques intrusifs qui viennent à l'esprit sans intention et qui sont très, très dérangeants, qui sont donc visuels, mais peuvent aussi avoir d'autres modalités sensorielles. Et donc, on a pensé, si on pourrait, en fait, créer une compétition de ressources dans la partie visio-spatiale du cerveau qui est en train de consolider la mémoire traumatique avec cette tâche visio-spatiale complexe, peut-être qu'on pourrait, en fait, prévenir le développement des flashbacks.
Et cette hypothèse a été testée dans le cadre d'une étude randomisée, contrôlée, en double aveugle. Pour la faire courte, les scientifiques se sont assurés que rien n'interfère dans le résultat de l'essai clinique, l'attitude du personnel soignant ou d'autres facteurs, par exemple.
Et on a pu montrer, effectivement, que si les femmes jouaient le Tetris pendant 20 minutes, en très brièvement, pendant les premières 6 heures après une césarienne en urgence, donc un accouchement traumatique, ça pouvait, en fait, prévenir le stress post-traumatique et jusqu'à 6 mois postpartum. Et c'était vraiment assez impressionnant de voir les effets qui duraient encore plus long terme.
Et des travaux complémentaires montrent que même des années après un accouchement traumatique, les effets de ce stress peuvent être réduits grâce au Tetris. Sans pour autant vivre un accouchement traumatisant, le petit coup de mou, celui qui arrive après l'arrivée d'un enfant, il existe bel et bien. Selon les sources, il touche 60% des femmes. En cause, une tempête hormonale et émotionnelle. Ça s'appelle le baby blues.
Et les symptômes, c'est vraiment des symptômes dépressifs. Donc on se sent peut-être très fatigué, peut-être on se sent diminué. On a des difficultés du sommeil, peut-être on se sent fragilisé, démotivé, déprimé des fois. Donc c'est quelque chose qui souvent dure quelques jours et ensuite souvent ces symptômes en fait vont disparaître. Par contre, si c'est pas le cas, si après il y a vraiment des symptômes dépressifs pendant au moins 2 semaines, là probablement on parle plutôt d'une dépression postpartum et ce serait vraiment important en fait de bien évaluer. Il faudrait bien voir un professionnel pour amener du soutien.
À la fin, moi je me demande si l'on n'est jamais vraiment prêt à avoir des enfants. En même temps, si l'humanité a survécu, c'est que c'est peut-être le cas. En tout cas pour certains d'entre nous. Mais comment cette humanité a-t-elle géré la pression de l'entourage? Vous savez, celle qui peut être toxique. La fameuse grand-mère ou la fausse copine qui commente et conseille sous couvert de bienveillance. Il faudrait peut-être en faire abstraction de ces commentaires. Et peut-être écouter vraiment nos instincts animaux.
Mais nos instincts, c'est finalement quoi? C'est un sentiment subjectif par rapport aux choix qu'on fait. Bien sûr, c'est important d'écouter à notre corps, mais en même temps, c'est aussi important d'être bien informé. Par exemple, on peut avoir certaines peurs qui sont peut-être des instincts, qui ne sont pas forcément en lien avec la réalité, peut-être. Ces peurs peuvent peut-être nous amener à faire des choix qui ne sont pas forcément peut-être les meilleurs choix à faire.
Les raisons pour lesquelles on fait un enfant sont donc très personnelles. Et notre façon d'aborder la parentalité également. Mais finalement, faut-il vraiment avoir un enfant? Peut-on être heureux sans enfant?
On peut clairement être heureux sans enfant. Il y a la recherche aussi qui le confirme. Les personnes qui ont fait le choix de ne pas avoir un enfant sont aussi heureuses et ne regrettent pas, en fait, d'avoir fait ce choix. Donc, c'est clairement un mythe qu'on doit avoir un enfant et être parent pour être heureux.
Il est temps pour Microscience de s'intéresser à d'autres casse-têtes. Si cet épisode ou ses frères et sœurs vous plaisent, partagez-les sur le réseau social de votre choix et abonnez-vous sur PlayRTS ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous avez des questions, une adresse mail, microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel.
Pourquoi mon orteil me fait si mal quand je le cogne? Pourquoi je dors? Pourquoi je rêve? Qui a inventé la seconde? Pourquoi le glaçon flotte dans mon verre? Vous voyez la lumière quand j'éteins ma lampe? Mon ficus essaie-t-il de me parler?
Microscience, ce sont 5 pièces qui se complètent. Camille Dupont-Laïte, la coproductrice, la barre verticale en forme de I. Mathieu Ramsauer, c'est le réalisateur, la pièce en Z qui se contorsionne pour que cet épisode soit parfait. Jérôme Nussbaum, c'est le T, avec son habillage musical qui s'insère au fil du son. Andréa Glanville, en forme de L, car elle est attachée de production. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique en un seul bloc. Soyez heureux!